Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, raconte-nous comment ça se passe cette première semaine des jeunes papas, tu fais tes nuits ?
Ah bah écoute, pour le moment on va dire que ça va, on limite la casse.
On a vu que tu étais même en retard là pour l'envoi de la news des terres ce jeudi.
C'est vrai. Mais ma relectrice était aussi un petit peu à la bourre.
Les petits bouts de choux, c'est un job à temps plein. Hein.
Tout à fait. Mais je vous le conseille quand même, hein. C'est une expérience à vivre.
Écoute, c'est très bien. Alors Olivier, aujourd'hui nous avons encore une fois plein de sujets à traiter. Nous allons parler de la filière viande en France, des poissons élevés en labo, d'un partenariat PepsiCo et Beyond Meat, des e-commerce alimentaires, des pubs larmoyantes de la grande distribution, d'un supermarché coopératif, de la bataille entre Thermomix et Lidl, des produits surgelés, des Tetra Pak, du vin bio et on va terminer avec une petite anecdote sur les millefeuilles. Tu es prêt ?
Allez, c'est parti.
Bon, commençons avec un article qui met en lumière la filière viande en France et l'impact de la fermeture des restaurants sur la filière. C'est sur Le Figaro. La fermeture des restaurants profite à la viande française. Et finalement, on apprend que la fermeture des restos n'a pas été si terrible que ça pour la filière française.
Eh oui, et ça tient à une cause en fait. C'est que dans les restaurants, la viande est en majorité importée.
J'ai
la viande
vu
qu'on
ça,
consomme.
Ouais.
Donc, grosso modo... Les restaurants et la restauration collective au global, ça représente à peu près 20% des débouchés de la viande bovine en France. Et du coup, si au global, tout circuit confondu, la consommation, elle a baissé déjà que de 2,3%, ce qui est...
La consommation des viandes en France en 2020 a baissé de 2,3%.
De viande bovine, de 2,3%. Donc, c'est pas énorme comme baisse. Et surtout... On se rend compte que cette baisse, elle a surtout affecté finalement l'import, puisque forcément le circuit restauration était coupé. Et d'autre part, la viande française, la viande d'origine France, elle a augmenté.
De 1,6%.
Parce que les gens, voilà, ils se disent, bah, on va privilégier la viande française. On a tous un manque de côtes de bœuf, de pièces de boucher qu'on trouve d'habitude au restaurant.
C'est clair.
Et finalement... 43% de la viande bovine française, la restauration commerciale, c'est 43% finalement de viande bovine française, le reste c'est de l'étranger.
Wow.
Et on a un peu la même chose sur le poulet par exemple.
Ah, je savais pas.
Sur le poulet, il y a 70 à 80% du poulet
qu'on mange au restaurant
ou dans les cantines qui est importé.
Souvent
c'est
du
énorme.
Brésil, malheureusement.
Pourquoi malheureusement c'est
parce que ça vient de loin. Et on apprend aussi que les bouchers, ils ont vraiment profité de cette. Évidemment, du confinement avec des ventes qui ont augmenté des moyennes de 10%. On a même des acteurs comme McDo qui, en octobre, pour les grands retours de son Royal Cheese, a décidé de l'intégralité de cette gamme des burgers s'est préparée avec de la viande charolaise. Donc, on voit vraiment des efforts de la part de la grande distribution, ou même des acteurs de la restauration rapide, pour privilégier la filière française.
Et aussi, le fait que les bouchers aient augmenté leur vente, hein, c'est aussi cet engouement, quelque part, des Français pour leur commerce de proximité.
Bien sûr.
Voilà, on veut aider le petit commerce autour de chez nous pour l'aider à continuer et à survivre pour passer la crise, quoi.
Et j'espère que ça va continuer après la crise. Et on apprend finalement que ceux qui ont vraiment pris cher, c'est les grossistes importateurs, parce que eux, ils ont vu une baisse de leur volume d'affaires des 50 à 60% en 2020. Quoi.
Bah oui, puisque le gros de leur débouché finalement, c'est la restauration.
La restauration, quoi. Bon, passons à notre protéine animale, mais maintenant c'est les poissons. Par contre, pas n'importe quel poisson, mais c'est ceux enlevés en labo. C'est sur Bloomberg. Cultured fish may go from lab to US plates this year. Les poissons d'élevage pourraient passer du laboratoire aux assiettes américaines cette année. Dans cet article, on apprend que les poissons cultivés in vitro sont proches de devenir une réalité.
Oui, on a beaucoup parlé de la viande in vitro ces derniers mois,
Bien sûr.
Notamment le mois dernier.
Le premier épisode des It's Business, on a parlé de ça.
Avec le poulet in vitro qui est en vente à Singapour, qui est autorisé à Singapour.
Tout à fait.
Et en fait, il y a aussi un gros pan de cette culture in vitro qui va s'attaquer maintenant à tout ce qui est poisson et fruits de mer. Donc, il faut le voir aussi finalement comme... un ingrédient, finalement, c'est utilisé pour des sushis, pour... On n'aura pas une pièce de poisson comme on la trouve chez le poissonnier. Hein. Ça va être plus en ingrédient dans des sandwichs ou des choses comme ça, je pense. Et là, cette start-up qui s'appelle Blue Nalu, elle a quand même levé 60 millions de dollars
pas mal.
Pour essayer de développer la culture in vitro de poisson.
Ils disent qu'ils vont commencer avec les mahi-mahi. Je ne sais pas c'est quoi ces poissons, mahi-mahi. Et surtout plus tard avec les thons rouges, bon, qui est un poisson très rare en fait, en voie d'extinction. Donc c'est très intéressant de voir cette démarche-là. Ils ont aussi construit, ils sont en train de construire une usine avec 40 000 pieds, je ne sais pas combien ça fait un mètre carré, pieds carrés, à San Diego en Californie. Et moi, ce qui m'a surtout attiré l'œil sur cet article, c'est la taille du marché mondial des poissons et fruits de mer qui s'élève à 200 milliards d'euros.
Oui, c'est énorme, c'est énorme.
Mais c'est énorme marché, quoi.
On mange des fruits de mer et du poisson partout, finalement. Hein,
et
d'autant plus qu'il y a des gens qui préfèrent manger du poisson plutôt que de la viande, parce que le poisson a une image beaucoup plus diététique que la viande. Donc, ceux qui veulent réduire leur consommation de viande ne vont pas forcément aller vers les légumes et ils vont se tourner peut-être un peu plus vers le poisson.
Oui. Après, la question qui se pose, et c'est une question qu'on va poser à nos auditeurs sur Instagram, c'est est-ce que les consommateurs sont prêts à consommer cette viande? Quelle est la perception, évidemment, de la viande des poissons élevés in vitro? Mais on aime, on n'aime pas, la protéine animale élevée en labo va devenir réalité et va prendre des parts des marchés assez importants sur les années à venir. Donc, on va continuer à suivre tout ça sur It's Business, même si c'est un sujet qui se rapproche beaucoup de la science-fiction, finalement.
Et tout à fait. Bon, après, on verra. Pour l'instant, c'est embryonnaire, hein, vraiment, comme marché. Il y a beaucoup de capitaux qui sont mis dans des start-up travaillant là-dessus. À voir ce que ça donne, parce que c'est quand même un marché de 200 milliards. À voir quelle part de marché ces startups arriveront à prendre.
De toute façon, c'est très intéressant. On va continuer avec avec cet intérêt qu'on a aussi au substitut de la protéine animale. Et là, c'est un partenariat qui va beaucoup faire parler de lui. C'est sur Wall Street Journal, c'est PepsiCo and Beyond Meat from Plate Form Plant-Based Foods Venture. PepsiCo et Beyond Meat lancent une entreprise pour développer des aliments à base des protéines végétales. Alors Olivier, c'est une énorme actualité. C'est les géants PepsiCo qui s'associent à la startup Beyond Meat qui a déjà levé des centaines de millions de dollars.
Et oui, et Beyond Meat, c'est un peu l'emblème de cette nouvelle forme de substitut à la viande. On a Beyond Meat et Impossible Foods.
Oui.
Hein, donc c'est des entreprises qui font surtout... Des galettes pour les burgers, hein, pour être clair. Hein,
des faux burgers, quoi.
Des fausses saucisses pour le moment. Mais le fait qu'une multinationale comme PepsiCo s'allie à Beyond Meat...
Énorme.
Ça traduit aussi un certain... Je dirais que ça va jouer sur l'innovation. C'est-à-dire que ces grandes multinationales ont peut-être plus les moyens d'investir ou veulent plus investir en innovation et se contentent de faire des partenariats avec des startups.
Oui, parce que c'est difficile pour une boîte de cette taille-là d'être aussi agile et aussi innovatrice qu'une petite startup qui est plus si petite que ça finalement. On apprend aussi dans l'article que beaucoup des produits PepsiCo, comme les Doritos par exemple, il y a des ingrédients qui sont d'origine des protéines animales. Donc pour eux, c'est aussi un intérêt de développer des nouveaux ingrédients qu'ils vont utiliser dans la recette. Et surtout, c'est un marché qui peut être gigantesque en fait. Les marchés du snacking à partir des protéines végétales.
Tout à fait. Et d'ailleurs, les deux entreprises ont annoncé que l'idée de la joint venture, c'est de développer des snacks et des boissons à base de protéines végétales. Donc, on voit le succès de Oatly, lait d'avoine, tous ces laits-là. Par contre, ce qui me semble intéressant, c'est le côté snacking, effectivement, qui n'a pas forcément été beaucoup travaillé pour le moment. Mais en tout cas, cette annonce, elle a vraiment... fait propulser l'action de Beyond Meat à des sommets.
C'est normal, ouais.
Hein, l'action, elle était à 134 dollars vendredi dernier et elle est montée à 220 dollars mardi.
C'est genre 80% de valeur.
Ouais, c'est énorme. Et j'ai regardé hier, Beyond Meat valait en bourse 11,23 milliards de dollars. Et c'est quasiment autant finalement que la valorisation de Carrefour. Carrefour est à peu près à 13,9 milliards pour vous donner une idée.
C'est clair. Bon, pauvre Carrefour qui reste quand même une cible attractive en bourse. Une autre point très intéressant dans cet article, en fait, je pense que d'abord, j'aime beaucoup les noms de l'entité juridique. C'est Planet Partnership, voilà. Partenariat pour la planète. Et je pense que la force des frappes des Pepsi dans la grande distribution avec la capacité des Beyond Meat à développer des ingrédients à base des protéines végétales va vraiment permettre à cette JV, à cette joint venture, à développer et gagner des parts des marchés dans les années à venir. Donc ça ne me surprend pas que Beyond Meat a pris 80% de valorisation sur la bourse, quoi.
Ça va peut-être surprendre certains hein, de voir PepsiCo et Beyond Meat, mais il faut voir que PepsiCo, c'est pas seulement du soda.
Oui.
Et ils sont très présents
ils
sur le snacking.
Ils ont toute une gamme de snacking gigantesque, tout à fait.
À la différence d'un groupe comme Coca qui est beaucoup plus centré sur les boissons.
On est d'accord. Bon, maintenant on va parler de ces sujets qu'on aime tant chez It's Business qui a la grande distribution. On part direction Londres où les grandes chaînes britanniques ont également profité de la fermeture des bars et des restaurants pour développer leur activité évidemment. C'est sur The Economist, an online sales boom is killing supermarket profits. Les développements des ventes en ligne tuent les profits des supermarchés. Alors Olivier, on apprend que l'augmentation des ventes de la grande distribution au Royaume-Uni en 2020 ne s'est pas forcément traduite en augmentation de la rentabilité.
Et tout à fait, et ça va tenir à plusieurs points. Donc déjà, les principaux distributeurs anglais, je prends Tesco par exemple, a augmenté ses ventes de 7,2% au cours du dernier trimestre 2020. Le numéro 2 Sainsbury, lui, il a vu ses ventes augmenter de 8,6%. Mais par contre, qui dit hausse de chiffre d'affaires ne dit pas forcément hausse de la rentabilité.
On est d'accord.
Donc Sainsbury, en fait, ils ont annoncé qu'ils s'attendaient à un bénéfice d'environ 330 millions de livres sterling pour 2020, alors que l'année précédente, ils ont fait 586 millions de livres.
C'est presque à la moitié de la rentabilité.
Voilà, donc ils ont augmenté leur chiffre d'affaires, mais ils ont moins de bénéfices. Mmh. Tesco, eux, ils s'attendent à peu près à la même chose.
Intéressant. Moi, je me demande, en fait, la situation en France, ça doit être similaire. Et là, on parle vraiment d'un segment qui a profité du confinement, de la grande distribution, donc qui a vu augmenter ses ventes. Mais il ne faut pas oublier d'autres secteurs qui n'ont pas profité du confinement, comme les restaurateurs et d'autres commerçants, qui ont également vu leur charge augmenter avec la crise sanitaire, parce qu'il faut acheter des masques,
voilà.
Il faut avoir moins de gens dans les magasins. Il y a tout un tas de charges qu'ils n'avaient pas auparavant, qui sont venues rajouter à leur charge. Par contre, il y a certains acteurs qui n'ont pas vu leur chiffre d'affaires augmenter et eux, ils sont vraiment dans une situation très difficile.
Et là concernant la grande distribution en Angleterre, il y a plusieurs explications. Hein. La baisse des marges, c'est d'une part des absences de personnel. Hein. Il y a des gens qui étaient absents pour cause de maladie ou parce qu'il fallait garder les enfants. Il y avait les coûts, justement, tu l'as dit, liés à la mise en conformité des magasins ou proposer des gels hydroalcooliques, etc., etc. Il y a l'impact du Brexit, évidemment, hein, qui n'est pas à négliger. Mais surtout, le premier facteur de la baisse de la rentabilité, c'est le développement du commerce en ligne.
Tout à fait.
Hein, donc, le commerce en ligne chez Sainsbury, les commandes en ligne, elles ont augmenté de 128%.
128%.
C'est énorme.
Oui, surtout que l'Angleterre, c'est déjà les premiers pays en Europe en termes de e-commerce alimentaire.
Oui. Avant le confinement, on estimait que la part de marché du commerce en ligne alimentaire était à peu près de 7% au UK.
7% au UK. En France, c'est quoi? C'est 5%?
C'était 5% a priori. Ouais. En Allemagne, Italie et Espagne, c'était aux environs de 2% seulement. Ouais. Et forcément, il y a une hausse, une explosion des commandes en ligne.
Bien sûr.
Donc, qui dit commande en ligne dit livraison à domicile.
Qui dit livraison dit coûts logistiques.
Coûts logistiques qui ont explosé. Et il y a aussi une concurrence très rude entre les différents acteurs qui vont batailler finalement sur les frais de livraison. Mm-hmm. Parce que, je sais pas si toi, t'as déjà fait l'expérience, mais tu fais une commande, tu la valides. Quand tu vois après que tes frais de livraison, il y en a pour 15 euros ou 10 euros, bon, tu réfléchis à deux fois.
C'est un frein à l'achat, les frais de livraison.
C'est un frein à l'achat. Et surtout, la problématique du dernier kilomètre, elle existe encore énormément.
Oui.
Et pour ces acteurs-là qui n'étaient pas habitués à faire de la livraison,
ou
Deliveroo. D'ailleurs, chez nous, on a vu des acteurs qui ont fait des partenariats avec Uber Eats et Deliveroo.
Bien sûr. La livraison reste un énorme casse-tête. En France, On a une autre forme de distribution qui est les drives, que je ne sais pas si au UK c'est aussi populaire qu'en France. C'est, les drives, l'avantage, c'est que ça permet à réduire les coûts des livraisons des derniers kilomètres, parce que c'est les consommateurs qui viennent chercher les produits. Mais je serais curieux de savoir quels sont les chiffres de la grande distribution en France. Si nos auditeurs ont accès à des infos, n'hésitez pas à partager pour qu'on puisse en parler lors d'un prochain épisode.
Ouais, on devrait pouvoir trouver ça. Hein.
Bah, je compte sur toi, Olivier. On va continuer sur la grande distribution avec un sujet qui met les larmes aux yeux, les pubs des grandes enseignes. Alors c'est sur Challenge, Auchan, Intermarché, Monoprix, pourquoi la grande distribution s'est mise aux pubs larmoyantes? Alors Olivier, la pub de la grande distrib devient du cinéma, c'est ça?
Oui, c'est un peu ça. C'est, en fait, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que jusqu'en 2007, les acteurs de la grande distribution n'avaient pas le droit de faire la publicité à la télévision.
Ah ouais?
Oui, donc c'est seulement depuis 2007, donc
c'est récent quand même.
Il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, ça devient des gros annonceurs qui ont dépensé, je crois, à peu près 4 milliards d'euros
c'est énorme,
en 2020 pour faire de la pub.
En fait, c'est sur les trois premiers trimestres 2020, l'investissement de tous les acteurs confondus de la grande distribution équivaut à 4 milliards d'euros. C'est gigantesque, quoi.
Et si vous regardez aussi, 2007, ça correspond à peu près à l'arrivée de Facebook. Et en fait, aujourd'hui, ces pubs-là, elles sont aussi faites pour être partagées sur les réseaux sociaux, pour faire le buzz de manière positive.
Tout à fait.
Donc, c'est aussi pour ça que ces acteurs-là essayent d'aller... Il y a eu une première période de 2007 à... Il y a 2017 à peu près, où finalement les acteurs se sont bataillés sur
les prix.
Ouais. Hein, on voyait, c'est moi le moins cher, qui est le moins cher, etc. etc. C'est notamment le leader qui a beaucoup poussé sur ces prix en disant, moi je suis le moins cher. Et aujourd'hui, on a des acteurs qui se sont dit, on va peut-être aller vers... peut-être plus se rapprocher de nos consommateurs en leur parlant sur leur
branding,
vie quotidienne.
Voilà, créer des liens émotionnels avec leurs consommateurs. Et apparemment, ça marche. Mais on peut se surprendre. Dans l'article, on parle de pub. Là, je n'ai pas regardé en fin d'année. Mais apparemment, Auchan a sorti deux films pendant les fêtes. C'est celui d'un papy qui s'initie au gaming pour surprendre sa petite fille qui joue en réseau. Ou c'est celui d'un père qui commande des dizaines de boîtes d'œufs pour insonoriser son garage où il cache une batterie pour son fils. Donc, on voit vraiment que c'est tout un storytelling autour de la relation humaine entre famille et ça apparemment ça marche. En fait, on a justement un responsable de l'agence Romance qui gère les comptes d'Intermarché, Jérôme Lavilla, qui dit que pendant 15 jours des campagnes, nous avons atteint 26% des buzz positifs, c'est-à-dire qu'un quart des Français ont lu, vu ou entendu quelque chose de positif sur Intermarché. Et suite à la campagne, les intentions d'achat chez Intermarché ont gagné un point, des 10,3 à 11,3%. Donc ça marche vraiment, quoi.
Ça a l'air de marcher. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, on est en période de pandémie, on est tous chez nous. Aller au supermarché, c'est pas forcément la tâche la plus sympathique du monde. Donc c'est aussi essayer de se rapprocher avec ses clients, les fidéliser, leur dire voilà, on sait que c'est compliqué pour vous en ce moment. Donc je pense qu'on touche à l'affect et effectivement, on voit quand même quelques enseignes. On prend Système U, a aussi pas mal cartonné l'an dernier.
Oui, avec des belles pubs. Hein.
Voilà.
Donc, c'est des gros budgets des productions d'ailleurs, parce qu'ils bossent avec des super boîtes des productions, des budgets qui peuvent s'élever à quelques millions d'euros. Et ensuite, les achats médias qui pèsent beaucoup, quoi.
Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est certains PDG de ces enseignes qui sont aussi sur les réseaux sociaux.
Ah oui,
je pense à Dominique Schulcher, qui est pas mal présent sur Twitter et LinkedIn. Michel-Édouard Leclerc aussi, qui est très présent sur LinkedIn. Donc, on voit aussi les grands patrons de ces chaînes de distribution qui commencent à parler aussi avec les consommateurs. Donc, ça renoue un certain lien.
Incarner un peu plus la marque aussi, même la grande distribution. Après, juste une parenthèse, évidemment, investir 4 milliards d'euros en communication, c'est quand même un sacré budget. Et il y a beaucoup de critiques qui peuvent dire qu'à la place d'investir tout cet argent-là dans la pub, ils pourraient investir peut-être dans la qualité de l'offre, dans les prix. Et moi, franchement, je ne serais pas en désaccord avec ces critiques-là. Et justement, notre prochain article parle d'un modèle de distribution alimentaire unique en Europe qui n'investit pas dans la pub et qui va justement en opposer des pubs larmoyantes. C'est sur France Inter et franchement, c'était un gros coup de cœur pour moi. Un supermarché différent à la Louve quand la coopération s'empare de la consommation. Alors Olivier, on apprend dans cet article qu'un supermarché coopératif existe à Paris depuis 2016 et fait un carton. Bah, toi qui aimes particulièrement les modèles coopératifs, ça a dû te plaire ça.
Oui, tout à fait. Et puis c'est... Alors, pour une petite anecdote, j'ai accompagné un petit peu la Louve, j'ai participé à la création.
Ah ouais?
Je suis arrivé à un moment donné où la structure était déjà créée, mais j'ai participé à l'élaboration de la campagne chouette. De com, etc. Et moi, c'est un projet qui me plaisait bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une coopérative de consommateurs.
Oui.
Donc, c'est un modèle qui n'est pas récent.
Oui, mais ce qui est particulier, c'est qu'en fait, pour pouvoir acheter, il faut être sociétaire. Je pense à Biocoop, mais Biocoop, tout le monde peut y acheter.
C'est une coopérative de commerçants, Biocoop.
Voilà.
C'est une différence.
Oui, et ça, c'est une énorme différence.
Donc, la Louve, pour résumer, la Louve, pour pouvoir acheter, il faut devenir sociétaire. Il faut prendre des parts sociales de l'entreprise.
Comment on fait pour devenir sociétaire?
Il y a des parts sociales, il faut prendre 100 euros. Vous mettez 100 euros de parts sociales. Donc, vous achetez une part de la coopérative. Mm-hmm. Si vous êtes au minima sociaux, c'est 10 euros, je crois. Et ces parts-là, le jour où vous quittez la coopérative, on vous rend vos 100 euros. Hein, donc, ce n'est pas de l'argent à fond perdu, je dirais. Et du coup, avec ça, vous devenez sociétaire. Et vous avez accès au magasin. Et les sociétaires de la Louve, ils vont pouvoir choisir les produits aussi qu'ils veulent voir dans leur magasin. Mais surtout, en fait, la deuxième condition à la Louve, c'est de donner des heures tous les mois au supermarché.
Ah, c'est intéressant
donc,
ça.
Donc finalement, vous allez donner des heures pour faire la caisse, pour faire remplir les rayons. Et tout ça, ça fait un certain esprit communautaire.
Bien sûr. Moi, j'ai vu qu'ils passent donc, ils doivent consacrer 3 heures par mois à la coopérative, voilà. Soit en caisse, soit en emballage, machin. Ça m'a fait pas mal penser à la crèche parentale. Toi qui es jeune papa, tu vas bientôt t'intéresser au sujet. Moi, j'ai mis mes 2 enfants dans une crèche parentale et franchement, c'était du taf parce qu'on s'impliquait toutes les semaines, etc. Mais quand même, c'était génial de voir les enfants grandir, tu restes proche et surtout les collectifs, quoi, parce que ça crée des liens avec les autres parents. Et je pense que dans un supermarché coopératif, c'est pareil en fait. Ça crée une vraie communauté entre les sociétaires, quoi.
Et en fait, à la base, la Louve, ça a été créé par 2 Américains
oui.
Et qui se sont inspirés d'un modèle qui existe à New York, qui s'appelle Park Slope Food Co-op.
D'accord.
Donc, c'est une coopérative... Qui existe depuis 45 ans. Qui d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais à l'époque, c'était le supermarché qui faisait le plus de bénéfices au mètre carré aux États-Unis.
Ah ouais?
Ouais.
Génial.
Je ne sais pas si c'est encore le cas.
D'accord.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement, à Park Slope, j'ai eu la chance de visiter Park Slope.
Ah, tu as visité Park Slope?
Grâce à Tom Booth, l'un des cofondateurs ouais. qui m'avait mis en contact avec eux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mixité, c'est-à-dire que vous allez avoir à la fois des chômeurs, mais aussi des médecins, des profs. Il y a vraiment, je crois que c'est 35 000 adhérents à Park Slope Co-op.
Wow.
Et du coup, il y a des gens qui viennent bosser à 5 heures du mat pour réceptionner. Il y en a qui sont au sous-sol, qui font les sandwichs, par exemple.
Mm-hmm.
Et il y en a qui font la mise en rayon, la caisse. Et c'est vraiment, c'est super intéressant à voir comment c'est organisé. Et du coup, la Louve a un peu importé ce modèle-là. Et aujourd'hui, c'est le modèle de la Louve a aussi essaimé un peu partout en France. Hein. On a des initiatives similaires qui se montent tous les ans.
C'est chouette. En fait, nous, on aimerait bien rencontrer Tom, peut-être faire un épisode avec lui pour mieux comprendre ses formats. Donc, si tu peux nous mettre en relation, ça serait
chouette.
Tom,
si tu nous écoutes...
Si tu nous écoutes, tu es le bienvenu.
T'es le bienvenu à Business of Bouffe.
Et moi, j'écoutais donc l'émission sur France Inter et j'invite tous nos auditeurs à l'écouter. Ça prend 20 minutes et c'est vraiment très chouette. En fait, c'est une vraie immersion dans la Louve. Les journalistes, ils accompagnent donc Tom qui les guide un peu dans les coulisses du supermarché. Et c'est drôle parce que Tom, il disait en fait que parfois, il y a des clients qui passent en caisse. C'est un client, c'est un sociétaire qui est plus ancien et qui parfois va aider la personne qui est en caisse, qui vient d'arriver et qui ne sait pas trop bien gérer la caisse.
D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller plus loin, sachez que Tom a fait un documentaire sur Park Slope Food Co-op. Il doit être en ligne sur une des plateformes. Je crois que c'est Vimeo. vidéo.
Bah écoute, on va chercher ça et à la limite, on va mettre ça dans l'article qu'on va poster sur Business of Bouffe. Un autre sujet très intéressant qu'il évoque, Tom, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la bouffe des qualités, ça devient de plus en plus premium. En fait, si on veut bien manger des produits bio, les produits direct producteurs, on fait souvent référence chez Business of Bouffe au terroir d'avenir. Bon, les prix de ces produits-là, ils sont plus élevés, de plus en plus élevés. Pas tout le monde a les moyens de pouvoir s'acheter du terroir d'avenir tous les jours. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est qu'on démocratise la bonne bouffe, en fait. Et il a un impact qui est presque invisible. Il dit, mais en fait, il y a des enfants aujourd'hui qui vont grandir avec la louve, qui vont grandir avec des bons produits. Et ça, c'est un impact invisible, mais qui va changer la vie de ces enfants, parce qu'ils vont être habitués aux bons aliments, quoi.
Oui, et d'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite sur le Park Slope Food Co-op qui avait montré que c'était dans le quartier de Park Slope qu'on mangeait le mieux. Mais après, ce qu'il faut aussi voir, c'est que comme c'est les sociétaires qui décident des produits qui sont mis en rayon, Park Slope Food Co-op, par exemple, ils voulaient du Philadelphia Cream Cheese. Donc, ce n'est pas forcément le produit bio, c'est produit industriel. Mais par contre, comme certains sociétaires voulaient ces produits en rayon, ils les ont mis en rayon. C'est vraiment un processus de
démocratique.
Et à la Louve, il y avait, alors à l'époque où j'y étais, il y avait des comités qui allaient chercher les producteurs d'huile d'olive, qui identifiaient, qui allaient peut-être parfois même visiter certains producteurs. Donc, il y a un vrai sourcing communautaire, je dirais.
Chouette.
Donc, c'est vraiment une expérience très intéressante.
Et sur la dimension donc, business, la Louve en 2020 a fait un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros quand même pour une surface des ventes de 750 mètres carrés et un bénéfice d'environ 120 000 euros. Je suppose que les bénéfices, quoi, il est partagé entre les sociétaires ou il reste pour la trésorerie de la Louve.
Voilà, ça, c'est les sociétaires qui choisissent en fin d'année ce qu'ils en font.
C'est qu'ils en font.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la Louve a quand même créé 12 emplois.
Chouette.
Même si...
Au-delà des sociétaires qui sont...
Au-delà des sociétaires qui aident. Donc, le fait que les sociétaires aident, ça permet de réduire les frais fixes, évidemment.
La masse salariale, elle est
Mais par contre, il y a quand même eu création de 12 emplois pérennes.
Bah, top. On va parler donc, on va rester sur la grande distribution, mais avec un angle différent, avec une marque qui s'attaque à Lidl. C'est sur Capital, les fabricants du Thermomix a fait saisir des Messier Cuisine Connect chez Lidl France. Alors Olivier, j'étais surpris de retrouver cet article, car il y a quelques mois, nous avons reçu chez Business of Bouffe le PDG du groupe Vorwerk, Pierre-Yves Buisson, qui nous disait justement qu'ils ne voyaient pas les robots chinois des Lidl comme concurrents, mais surtout que ça lui aidait à développer les marchés des robots intelligents. Mais il se trouve peut-être qu'il a changé d'avis.
Ouais, moi, c'est ce que j'appelle un peu une kitchen robot war. Donc, c'est vraiment... C'est un marché en pleine explosion, forcément.
Oui.
Je pense que le confinement a aussi... On a beaucoup plus cuisiné chez soi. Donc, je pense que les gens se sont dit, on va peut-être investir dans un robot cuisine un peu évolué, hein, parce qu'on avait tous peut-être des blenders, etc. Et là, on peut avoir un vrai robot qui fait beaucoup de choses. Et je pense que du coup... Alors, Thermomix, il y a quand même... c'est un budget.
Hein, c'est 1300 euros.
C'est 1300 ou 1350. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps.
Ah.
J'en suis très content, mais c'est un budget.
Bien sûr.
Et c'est ces nouveaux acteurs qui cassent les prix, parce que je crois que celui de Lidl
euros.
Est à 300 euros.
Oui.
Donc, on voit une grosse différence de prix. Maintenant, derrière, je n'ai pas testé celui de Lidl. Je ne peux pas juger de la qualité. Mais en tout cas, on se rend compte que... Il y a un acteur leader qui se fait attaquer par des plus petits qui vont forcément... Enfin, effectivement, quand on voit un peu l'objet de Lidl, il y a une forte ressemblance quand même.
Oui, et justement, c'est sur cette base que Vorwerk attaque Lidl. C'est sur du plagiat. En fait, ils ont un brevet pour ces robots intelligents. Et apparemment, les produits de Lidl, il a plein de choses. Il s'est inspiré des Thermomix, on va dire. C'est un produit chinois. Nous, on a passé une heure et demie à discuter avec Pierre-Yves. J'invite tous nos auditeurs à écouter cet épisode parce que c'est vraiment un épisode passionnant. On apprend beaucoup plus sur Thermomix. Et surtout, ce qu'on évoque avec lui, c'est que en fait, les produits Lidl, ils sont pas chers, mais en plus, ils sont pas réparables, en fait. Donc, en fait, si ces produits tombent en panne, et malheureusement, ça arrive assez souvent, parce que c'est un produit bas de gamme, on doit les jeter à la poubelle. Donc, au-delà d'être un produit qui, évidemment, attire les gens en magasin, c'est ça l'envie des Lidl, c'est d'utiliser ça comme une activité marketing pour faire venir du monde en magasin, c'est presque un crime écologique, parce que tu vois, ces produits en plastique, en acier, qu'on doit jeter à la poubelle dès qu'il y a un petit problème.
Et d'ailleurs, j'ai découvert que les Thermomix, étaient fabriqués en France.
Tout à fait, ils sont fabriqués en France.
C'est du made in France.
Donc franchement, il a un écart des prix qui est énorme, des 1000 euros, mais je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Moi, je suis là largement côté Vorwerk. Je pense qu'ils vont, et probablement, ils ont remporté la bataille juridique en Espagne, mais je ne suis pas surpris qu'il la remporte un peu partout en Europe. Quoi.
D'ailleurs, si Pierre-Yves Buisson veut apporter des précisions, il est le bienvenu. Hein.
Évidemment. En plus, on a tous les deux fait l'INSEAD, on se connaît bien, donc Pierre-Yves, n'hésite pas. Alors, on va continuer. On passe des robots culinaires, un autre article qui aide les gens à gagner du temps en cuisine et qui ont aussi vu une forte augmentation de leur vente en 2020. C'est les produits surgelés. Donc, c'est sur LSA, surgelés, Findus, sur les hauts de la vague en 2020. Dans cet article, on apprend justement que les produits surgelés ont connu une excellente année 2020 avec une augmentation des ventes des 13%.
Oui, et c'est d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, c'est comme les fruits, enfin les légumes surgelés qui ont explosé. Findus, qui est un des leaders du marché, forcément, il a profité aussi boom du surgelé. On a tous fait des courses pour stocker, surtout au début du confinement. Hein, et je pense que les produits surgelés aussi, ce côté pratique de... quelque part, d'éviter de retourner au supermarché faire ses courses, peut-être d'éviter de croiser beaucoup de monde. Donc, je pense qu'il y a ce côté un petit peu qui a joué. Et du coup, les congélateurs se sont remplis et Findus a profité aussi de ça. Et au-delà des produits phares de Findus, hein, on pense aux poissons panés, toutes ces choses-là, ce que dit Findus, c'est que c'est aussi leur toute nouvelle gamme VG qui a très bien fonctionné.
Green Cuisine. Ouais, ben on voit la force du VG. Ben en fait, la demande des consommateurs pour des produits végétariens. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, les secteurs des surgelés n'avaient pas connu des croissances en fait, depuis 2016. C'est un secteur qui était un peu en difficulté. Ben, l'année 2020, c'est une année qu'ils ne vont pas oublier parce que ça les a vraiment aidés à développer l'activité, quoi.
Ouais, c'est comme pour tous les acteurs de ce secteur. Hein. Je pense que 2020, ça a été un vrai tournant. La question, ça va être, est-ce que les consommateurs continueront à consommer du surgelé ? Alors, je pense qu'il y a eu des gens qui ont redécouvert le surgelé et qui vont probablement rester sur ces produits-là. Mais en tout cas, c'est un vrai levier pour eux, la pandémie, finalement.
C'est clair. Voyons comment ça va évoluer. Encore un article sur l'industrie agroalimentaire, mais cette fois-ci, on va parler packaging et les efforts de la filière pour mettre en place des packaging éco-responsables. C'est sur l'usine nouvelle, Tetra Pak annonce la date de sa brique 100% carton. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Justement, Olivier, on va devoir attendre quelques années avant de voir des briques 100% carton.
Oui, tout à fait. Il faut voir quand même, on parle du business de la bouffe, et l'emballage, c'est un vrai business et c'est vraiment impactant sur les produits et sur le climat. Hein. Aujourd'hui, une brique Tetra Pak, donc la brique de lait un peu classique, c'est un peu plus de 70% de papier carton qui est issu de forêts labellisées, 25% de plastique avec cette fois-ci une part croissante de végétal et à peu près 5% d'aluminium.
D'accord.
Donc ça reste encore un petit peu problématique niveau environnement.
On apprend surtout dans l'article que les taux de collecte des briques en 2000 plafonnaient à 8%.
Oui, c'est assez peu. Hein.
Donc 92% qui n'étaient pas recyclés. Et là, en 2019, il atteint près des 57%, c'est une belle évolution, mais on reste encore 43% de ces briques qui ne sont pas recyclés et qui ne sont pas révalorisés. Quoi.
Et du coup, ça rentre dans cette famille des emballages plastiques à usage unique qui vont être interdits d'ici 2040 en France. Hein.
Tout à fait. Moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est que donc, justement, ils essayent d'ici 2040, bon, il ne sera pas 100% carton d'ici 2040, mais avant, quand même, il y aura des améliorations. Tetra Pak investit beaucoup en R&D. Ils ont investi, je pense, entre 2019 et 2020, 180 millions d'euros pour développer des nouveaux packaging. Il y a une augmentation de l'usage du bioplastique issu de la canne à sucre. Notamment, c'est les Brésils, c'est Braskem, un des principaux fournisseurs de cette matière-là. Et donc, on voit l'évolution, les efforts qu'ils font la filière. Après, c'est vrai que c'est une technologie qui est assez spécifique et on va mettre un peu de temps à arriver à une solution éco-responsable avec les mêmes capacités techniques de préservation, etc.
En tout cas, on peut qu'encourager ces initiatives-là, notamment de la part d'un leader du marché. Quand le leader investit, forcément, ça entraîne derrière les autres qui vont s'adapter également.
On est d'accord, c'est toujours une bonne nouvelle. Et enfin, un article sur les vins, ça me manquait, les vins sur It's Business, là, ça faisait longtemps. C'est sur Les Échos, c'est les vins bio, l'exception d'un marché mondial en récession. On apprend que les segments bio en 2020 à la côte, malgré un contexte d'ébaisse pour les vins en général.
Oui, alors en fait, faut voir qu'il y a 5 pays dans le monde qui sont consommateurs, qui consomment à peu près la moitié du vin bio. Mmh. Donc, c'est les principaux producteurs de vin, hein, finalement. Hein. L'Italie, la France, l'Espagne, et derrière les États-Unis et l'Allemagne. Et en France, par exemple, le bio est passé de 9% du total du vignoble en 2013 à près de 16% en 2020. Donc c'est, il y a quand même une progression au niveau du développement du bio. Mmh. Après, au niveau des ventes, au niveau de la production déjà, c'est une production qui coûte plus cher, mmh. hein, parce qu'il y a plus de manipulation, il faut plus de main-d'œuvre. Par contre, c'est des vins qui se vendent généralement 30% plus cher aux consommateurs.
C'est clair. Et les vins, ça reste un produit sur lequel on a très peu d'informations. Hein. Même aujourd'hui, si on prend une bouteille des vins, on regarde sur l'étiquette, il y a vraiment très peu d'infos. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Souvent, dans les processus des vinifications, pour certains producteurs, on peut utiliser beaucoup de chimie. Et donc, les bio, ça rassure les consommateurs. Déjà, au niveau du vignoble, on sait que ces raisins-là, ils ont été traités sans pesticides. Après, encore, il reste beaucoup d'efforts dans la vinification. Moi, je suis un consommateur des vins nature. Donc, moi, j'aime beaucoup ces vins qui sont vinifiés de façon très naturelle, sans intrants. Et je pense que c'est un marché qui va que se développer parce que de toute façon, ça va dans la tendance de mieux manger et de mieux picoler.
Alors, le vin nature, je suis un petit peu moins fan parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah ouais. Mais après, sur le bio, ce qu'il faut voir, c'est attention, c'est pas de pesticides de synthèse. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pesticides, mais qui sont naturels. Donc, c'est une petite nuance. Mais en tout cas, le bio se développe. Sur le vin, il y a beaucoup d'enjeux, forcément, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle la haute valeur environnementale qui est mise en place. Le problème qui va arriver, c'est que finalement, on va avoir une multiplication des labels, des logos, etc. Et pour le consommateur, bah, c'est un peu... quand tu es dans le rayon, c'est un peu, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc c'est aussi un peu confusant pour le consommateur. Donc il faut aller vraiment regarder l'information.
Oui, et malheureusement, l'information sur les vins, elle est un peu moins disponible que sur les restes des produits alimentaires. Cette semaine, on n'a pas eu des tweets ni des bons plans télé. Bah, Olivier, il était très occupé à s'occuper de son petit bout de chou. Par contre, on va finir avec un article sympathique. C'est un article sur les millefeuilles. Donc, c'était sur Europe 1. Les millefeuilles, ces gâteaux qui cartonnent depuis le XVIIe siècle, mais portent mal son nom. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne contient pas millefeuillés de pâtes. C'est quoi cette histoire, Olivier?
Oui, alors je sais pas si toi t'aimes le millefeuille.
Ah, j'adore.
Moi, c'est un dessert.
Moi, j'adore tous les desserts.
Que je mangeais. Ouais, c'est pareil, mais en fait, le millefeuille, c'est un peu un dessert d'enfance pour beaucoup de monde.
Oui.
Et en fait, c'est un dessert. Moi, j'ai découvert hein, qui remontait au XVIIe siècle.
XVIIe siècle.
Avec une recette originale qui était plus arrosé au kirsch ou au rhum.
Ouais, ça, je trouve ça dommage qu'ils ont changé cette approche.
Et en fait, c'est un produit qui a commencé à trouver du succès à la fin du 19e, mm-hmm. dans une pâtisserie de la rue du Bac à Paris.
D'accord.
Et j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas mille feuilles, effectivement, parce que le tourage fait qu'a priori, il y a 729 feuilles,
très
précisément.
Ouais. Mais c'est un peu moins vendeur de dire, voilà, les 729 feuilles, quoi. Donc, ils ont pris les parties prises de l'appeler millefeuille.
Alors, si vous avez des enfants, peut-être que vous pouvez leur demander de compter les feuilles, ça les occupera.
Ça va les occuper. Très bonne idée pour ce week-end, Olivier. Et justement, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'aujourd'hui, grâce à d'autres techniques d'épiage, il y a certains pâtissiers qui réussissent à obtenir même 2000 feuilles, en fait.
2000 feuilles, voilà. Donc, je crois qu'il y a Pierre Hermé qui fait ça, non?
Probablement. Cédric Grolet, bah, c'est ces gars qui essayent de pousser au maximum la technique pour avoir des résultats bluffants, quoi.
Ouais.
Olivier, c'était un énorme plaisir de faire encore cette revue de presse avec toi. Je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve semaine prochaine pour un nouvel épisode des It's Business.
Bonne semaine, au revoir à tous.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt.